C'est Christine Cossette au microphone. Bienvenue à cette autre émission Croire, d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Aujourd'hui, je reçois un de leurs professeurs, Sophie Tremblay, qui viendra nous parler du baptême, le baptême des petits-enfants comme celui des adultes. Alors, pour ceux qui y étaient en 1960, on va se rappeler comment se passaient les baptêmes à l'époque. Puis, nous verrons les changements apportés par l'Église officielle et ce que cela a pu occasionner bien concrètement dans la pratique pastorale au Québec. Dans le contexte actuel, évidemment, marqué par le culturalisme, marqué par la liberté de croire, de pratiquer, par la liberté de conscience aussi, et par les nouvelles façons de vivre la réalité familiale, on peut se demander pourquoi faire baptiser nos enfants ou pourquoi on attendrait qu'ils soient adultes pour les faire baptiser et quels en seraient les fruits aussi pour notre Église aujourd'hui. Et puisque la pratique de nommer un parrain et une marraine à la naissance de nos enfants est encore, semblerait-il, bien vivante, alors nous essaierons de voir pourquoi. Sophie Tremblay est professeure à l'Institut de pastoral, spécialiste du baptême. Elle a accepté notre invitation à venir nous dire où en sont les choses actuellement au Québec. C'est donc un plaisir pour moi d'accueillir Sophie Tremblay. Sophie Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation à venir parler du baptême. Alors, merci beaucoup.
Tout le plaisir est pour moi.
Dites-moi, Sophie, à quoi ressemblait un baptême en 1960?
Alors, la première chose qui est frappante, c'est de voir à quel point les baptêmes avaient lieu tellement tôt après la naissance. Généralement, c'était donc des enfants, presque tout le temps, qui étaient baptisés au Québec, et vraiment des nouveaux-nés d'à peine quelques jours. L'expression latine pour désigner cette coutume de baptiser très tôt après la naissance, on disait le baptême avait lieu quam primum. Donc, ça veut dire le plus tôt possible. Alors, quand on voit les baptistères de l'époque, on réalise qu'il y avait seulement quelques jours. Donc, la mère, généralement, qui venait d'accoucher, n'était pas relevée de ses couches et c'était impossible pour elle d'être présente au baptême.
Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'était si tôt?
Parce qu'on craignait pour la mort de l'enfant. Il fallait absolument assurer son salut. Alors, la crainte pour le salut était la préoccupation prédominante, ce qui va beaucoup changer après, on va le voir tout à l'heure. L'accent va être vraiment ailleurs. Alors, il y avait une personne qui était désignée pour porter l'enfant, on disait la porteuse. Mm-hmm. Et puis, il y avait le parrain et la marraine, qui étaient vraiment les adultes les plus importants dans la célébration du baptême, parce que eux prenaient l'engagement au nom de l'enfant, mais ils le faisaient fictivement, comme si eux-mêmes étaient l'enfant. Donc, ils disaient « je » à la place de l'enfant.
Ah oui?
Oui. Et il y avait un seul rituel pour le baptême, que ce soit des adultes ou des enfants. Alors, on faisait une espèce de catéchuménat en accéléré à l'intérieur de la célébration du baptême, entre autres avec le sel qu'on mettait sur la langue, qui était un rite du catéchuménat. Mm-hmm. Alors, le parrain et la marraine avaient un rôle prédominant et il était important pour la validité du baptême qu'il touche l'enfant physiquement au moment où l'eau était versée sur lui. On baptisait aussi des enfants, toujours un à la fois, avec la précipitation avec laquelle on le faisait, n'est-ce pas? C'était pas préparé longuement.
Non.
Et puis ensuite, beaucoup d'églises paroissiales, ça nous paraît étonnant aujourd'hui, mais elles n'avaient pas de fonds baptismaux. Alors, il y a certaines églises où on baptisait tout simplement dans la sacristie avec quelques gouttes d'eau qu'on faisait glisser sur le front de l'enfant avec un pichet puis qui était recueilli dans un bol. Donc, vraiment, là, le minimum. Alors, dans beaucoup d'églises, il n'y avait pas de lieu destiné particulièrement au baptême.
Alors, ça, c'est donc jusqu'au Concile Vatican II.
Jusqu'au Concile Vatican II, tout
à fait. Puis ensuite, en 1963, la Constitution sur la liturgie, le premier texte adopté donc au Concile Vatican II, lance un nouveau chantier et au fond, c'est la révision des rituels de tous les sacrements. Alors, pour ce qui est du baptême, qu'est-ce qui arrive?
Donc, dans la foulée du Concile Vatican II, première chose à faire remarquer, c'est qu'on met en chantier deux rituels et non plus un seul. Donc, on crée pour la première fois depuis le début de l'Église, un rituel propre aux petits-enfants, le rituel du baptême des petits-enfants, qui a été promulgué en 1969. et qui a commencé à être appliqué en français ici, vraiment, là, 69-70. Et ensuite, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, dont la première édition a été promulguée en 1972 et qui a été révisée à quelques reprises depuis. Et ce qui était marquant, c'est que on les utilisait en français et non pas en latin. Donc ça, c'était vraiment l'usage inauguré par le Concile d'utiliser la langue du peuple pour les célébrations. Ensuite, quelque chose qui est changé dans le rituel. L'accent n'est plus tant sur la peur pour le salut de l'enfant que pour maximiser, on pourrait dire, l'expression de la foi des parents à l'intérieur de la célébration, parce que on va déplacer le focus des parrains et marraines vraiment vers les parents.
Ah oui.
Donc, c'est l'engagement des parents qui est celui par lequel le fait de baptiser un enfant peut prendre un certain sens dans le nouveau rituel.
Oui, et donc là, la mère est présente, là.
La mère est présente, et puis si vous regardez les baptistères de l'époque, au lieu d'être dans les 2 ou 3 jours qui suivent la naissance, là, il y a souvent un délai d'une semaine, de 2 semaines, donc ça laisse le temps à la mère d'être assez bien pour être présente, sauf exception. Alors, l'engagement des parents est vraiment centrale à l'intérieur du nouveau rituel du baptême des enfants, et les parents et parrains marraines s'engagent en leur propre nom, ils ne font pas semblant de dire « je » à la place de l'enfant. Donc ça veut dire qu'on laisse un espace pour que l'enfant puisse s'approprier sa foi, s'approprier cette parole qui a été dite par d'autres plus tard dans son cheminement. Autre élément aussi qui est apporté par les changements dans les rituels, c'est qu'on va demander qu'il y ait un aménagement dans les églises d'un espace pour les baptêmes, des fonts baptismaux. Mm-hmm. Ça va être réclamé par le Concile, donc ça va nécessiter dans certains lieux qu'on déplace des choses, ou dans les nouvelles églises qui ont été construites, là, on a vraiment fait de l'espace. Non seulement pour qu'il y ait des fonts baptismaux, mais même qu'il y ait de l'espace pour que les gens autour puissent participer à cette partie-là de la célébration d'une manière qui est distincte du lieu pour la célébration eucharistique. Donc, idéalement, à l'arrière de l'église ou encore dans une chapelle latérale. Oui, c'était vraiment les lieux qui étaient privilégiés. Ensuite, encore à l'époque du Concile, on a baptisé beaucoup les enfants encore eux à la fois parce qu'on change pas les coutumes dans un claquement de doigts. Mais par ailleurs, le rituel prévoyait aussi les baptêmes collectifs qui sont devenus après coup, à partir des années 80, de plus en plus nombreux, jusqu'à être aujourd'hui plutôt la norme et l'habitude.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est venu un peu plus tard.
Oui, mais déjà le rituel le prévoyait.
Oui, et c'était le dimanche toujours.
Oui, alors qu'auparavant, comme on baptisait tout après la naissance, ça pouvait se trouver n'importe quel jour de la semaine. Donc, avec le nouveau rituel, on privilégiait que ça ait lieu le dimanche.
C'est ça. Alors, j'imagine que ces changements-là ont eu des répercussions importantes au Québec.
Ah, absolument. Alors, là aussi, autant la rédaction des rituels avait été un chantier, autant l'organisation de cette pastorale et l'appropriation de ce rituel ont été un immense chantier. Que d'énergie ont dû y être investies. Et entre autres, c'était tout un chantier de l'ordre de la formation, dans la mesure où les prêtres eux-mêmes n'étaient pas encore familiers avec ce rituel. Donc, il fallait commencer, eux, par les former, par les préparer, de manière à ce qu'eux-mêmes soient capables de former les laïcs et puis d'être capables de l'expliquer aux parents, de donner sens aux parents à tous ces changements-là. Parce que les gens, à l'époque où ça a changé, avaient déjà vu des baptêmes de l'ancienne manière. Donc, là, il fallait comprendre pourquoi ça ressemblait plus à ce que ça avait déjà été.
Ouais, alors, j'imagine que les croyants devaient être heureux de voir ce changement-là.
Ben, en fait, pour beaucoup, le fait de pouvoir entendre en français, c'était vraiment bien accueilli. Le fait que ce soit en français, le fait que les parents puissent être présents, c'est des choses qui ont été bien accueillies aussi. Pour un certain nombre aussi, de découvrir un sens beaucoup plus profond au baptême que peut-être ce qu'ils avaient pu expérimenter. Mais par ailleurs, ça a bousculé des traditions, ça a bousculé des habitudes, et on a réalisé après coup, peut-être une décennie après le Concile, à quel point les mentalités évoluaient plus lentement que ce qu'on avait pu imaginer, que ce qu'on aurait souhaité ou ce qu'on aurait voulu. Quand les gens s'attachent à des coutumes, on leur fait pas renoncer à ces coutumes-là avec un simple raisonnement intellectuel, fut-il de la meilleure théologie.
Non, évidemment.
Bon, par exemple, la conception populaire du rôle du parrain et de la marraine s'est demeurée fortement marquée par l'avant-concile. Mm-hmm. C'est encore le cas en partie aujourd'hui. Par contre, vous aviez, en contraste avec ces gens qui avaient de la difficulté à abandonner des traditions, de l'autre côté, vous aviez des gens parmi les pasteurs ou les théologiens les plus avant-gardistes qui auraient vraiment souhaité aller beaucoup plus loin que Vatican II, qui trouvaient que Vatican II avait fait encore dans la demi-mesure. Ils souhaitaient une refonte beaucoup plus radicale, non seulement du baptême, mais de toute l'initiation chrétienne, dont de retourner à l'atelier pour penser vraiment l'initiation chrétienne dans son ensemble, du baptême jusqu'à la confirmation, la première communion, la profession de foi, donc avec incluant la catéchèse, donc le revoir dans son ensemble d'une manière beaucoup plus fondamentale. Et puis, pour certains, ça allait même jusqu'à envisager l'abandon de la pratique du baptême des petits-enfants.
Alors, par qui elle a été remise en question et pour quelles raisons?
Alors, l'origine du débat nous fait remonter un peu avant la période qui nous intéresse. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié en 1943 par un théologien réformé, protestant réformé, suisse-allemand, Karl Barth, qui a été un des théologiens les plus importants du 20e siècle et qui a été aussi beaucoup lu et considéré du côté catholique. Donc, d'après Karl Barth, le baptême des enfants, c'est une pratique dont on ne trouve pas de justification dans la Bible. Pour lui, c'est une pratique qui est à la limite arbitraire, qui est sans raison, sans fondement. Et quand des personnes qui reçoivent le sacrement sont inconscients comme de jeunes enfants, pour lui, tout le sens du sacrement se trouve complètement dilué. Parce que le sens du sacrement ne peut se déployer que dans un engagement conscient, volontaire, fait en son propre nom. Pour lui, il n'y a rien que le baptême des adultes qui peut se justifier et qui lui paraît fidèle à la fois aux Écritures et puis aux grands fondements de la foi chrétienne. Donc, pour lui, le baptême des enfants, c'est une catastrophe. Et quand il en regarde les conséquences dans l'histoire de l'Église et dans la pastorale, pour lui, c'est un gâchis sans nom.
Oui, et qu'est-ce qu'il entend là par conséquences?
Bon, les conséquences pour lui, c'était de créer une Église tiède, une Église qu'il appelait multitudiniste. Et il faut se rappeler aussi en arrière-fond que Karl Barth a été mêlé à tous les conflits des chrétiens, surtout des protestants, pendant le régime nazi en Allemagne. Et que lui a choisi d'appartenir à l'église dissidente qui s'appelait l'église confessante, qui avait refusé de pactiser avec le régime nazi, alors que vous aviez de l'autre côté tout un certain nombre de protestants qui avaient accepté, au contraire, d'entrer dans l'idéologie nazie, puis même de retoucher la foi chrétienne en fonction de ça. Donc, lui disait une église multitudiniste, une église où tout le monde, n'importe qui, sans engagement, devient chrétien. Ça donne cette possibilité que Adolf Hitler soit baptisé à côté de n'importe quel autre saint homme à côté qui va. Donc pour lui, ça n'a aucun sens. Ouais. Alors c'est sur ce fond historique qu'il s'insurge et qu'il voit une catastrophe, un désastre. Alors, c'est la première prise de parole et c'était vraiment le début de tout un débat parce que ça a eu beaucoup d'écho. Mais même si c'est du côté protestant que le débat, on pourrait dire, théologique et scripturaire a été le plus houleux, ça s'est répercuté du côté catholique aussi. Mais en premier lieu, il y avait des choses à vérifier et les choses qui étaient à vérifier touchaient d'abord la Bible et l'histoire de l'Église. Il y a eu de la recherche et puis on en est venu à une espèce de consensus qui a bien plu aux catholiques dans la mesure où pour les catholiques, la validité, on pourrait dire historique, du baptême des enfants n'a été remise en question que par quelques penseurs minoritaires. Oui. Mais par ailleurs, on a des preuves certaines qu'on baptisait les bébés au 3e siècle. Là, on a des preuves certaines. Donc, les années 200 quelque chose. Mais par ailleurs, pour ce qui concerne les siècles qui ont précédé, on a quand même des indices. On n'a pas de preuves, mais on a des indices qui nous le laissent penser. Bon, entre autres, un martyr qui nous dit qu'il a grandi dans la foi depuis son tout jeune âge et qui est maintenant dans un âge avancé. Okay. Si ma mémoire est bonne, c'est Polycarpe de Smyrne. Et puis, on savait aussi qu'il y avait des baptêmes de maisonnées entières. Donc là, c'est quand le maître de toute la maisonnée à la romaine, là, à l'antique. Oui. Ça incluait son épouse, ses enfants, ses serviteurs, la famille élargie. Donc, on le voit un petit peu avec l'épisode dans les Actes des Apôtres, du baptême du centurion Corneille, avec toute sa maisonnée. Alors, ça incluait les enfants. Peu importe la génération, peu importe l'état, la situation sociale des personnes qui appartenaient à la maisonnée, on avait des baptêmes où toute la famille, tous ceux qui habitaient la maisonnée, qui faisaient partie de la famille, de près ou de loin, étaient baptisés.
Oui, Donc, j'imagine que ça nous confortait là, de retrouver ces pratiques dans l'Église primitive.
Tout à fait.
Ça nous confortait dans notre façon de faire, c'est-à-dire de baptiser des enfants,
tout
des
bébés. Tout à fait. Donc, on voit que c'est une pratique qui est très ancienne, même si on a cherché des justifications théologiques seulement après coup. Mm-hmm. Mais par ailleurs, du côté catholique, c'était suffisant pour nous rassurer sur la légitimité de continuer de baptiser des bébés.
Oui, mais alors pourquoi plusieurs personnes appartenant à notre Église ont-ils remis en question le baptême des bébés?
Alors, c'est pour un autre ordre de raison qui est beaucoup plus d'ordre ecclésial, d'ordre pastoral. Bon, la remise en question venait de gens qui étaient extrêmement engagés sur le terrain, dans l'action et aussi dans la réflexion sur où est-ce qu'on va avec cette action pastorale-là. Donc, c'est des prêtres à l'époque, des théologiens spécialisés en liturgie, en éducation de la foi, des religieux, des religieuses et aussi des laïcs engagés en pastoral et même aussi des parents. Hein. Il y a des parents qui ont vraiment choisi de manière très consciente que leur enfant ne soit pas baptisé en jeune âge pour leur permettre de pouvoir le faire à l'âge où ils le feraient de leur propre chef. Donc, c'était à l'intérieur de ce contexte d'action et de relation qu'il y a eu une remise en cause, donc à travers, on pourrait dire, l'épreuve de la réalité et non pas celle des idées. Mm-hmm. Parce que, oui, d'accord, le baptême des enfants est d'origine ancienne, on peut dire qu'il est légitime, mais par ailleurs, est-ce qu'il faut en conclure pour autant qu'il est pertinent pour aujourd'hui? Mmh. Est-ce qu'il favorise vraiment une vie de foi consciente, engagée, fervente? Quel genre d'église est-ce qu'il construit? Bon, dans les années 60, on était dans une période de mutation sociale et culturelle accélérée. C'est une période de bouillonnement incroyable. Au Québec, c'était la Révolution tranquille, avec des changements majeurs qui ont touché l'identité collective, qui ont touché les valeurs, l'organisation sociale de manière assez impressionnante. Donc, vraiment un rattrapage qu'on a dit, le Québec entre dans la modernité, puis ensuite, assez rapidement aussi, dans la postmodernité. Et c'est un changement de statut social qui a été entraîné pour l'Église, et on est encore dans cette période de déplacement et de changement. Donc, c'est clair que dans ce contexte-là, être chrétien, être membre de l'Église catholique, ça n'implique pas du tout la même chose. Quand on est dans une société sécularisée, quand il y a un pluralisme de faits qui s'établit graduellement, je parle même pas d'un pluralisme au niveau des idées, mais simplement de dire « je sais que mon voisin ne croit pas forcément comme moi, puis on a le droit de le dire, et puis... Donc, puis il y a des gens qui ont d'autres croyances ou d'autres appartenances qui ont le droit, finalement. C'est toute la question de la liberté de conscience, hein, du fait de pouvoir choisir ses croyances, ses appartenances. Dans ce contexte-là, croire au Christ ne va plus de soi. Et naître chrétien, souvent, on a découvert, en tout cas beaucoup ont découvert en pastoral, que ça même, pouvait même devenir un obstacle à le devenir.
Ah oui, hein?
Ouais. Quand on prend tellement pour acquis qu'on est chrétien parce qu'on a été baptisé en jeune âge, on le considère comme un droit, on a l'impression d'avoir tout reçu. Mm-hmm. Mais par ailleurs, est-ce qu'on le devient réellement pour autant? Bonne question. Oui. C'est vraiment de cet ordre-là qu'était la question ici, et lié, comme je vous disais, à tout ce contexte de changement, des changements sociaux, des changements culturels qui n'ont fait que s'accentuer dans les années 70, 80, 90 et 2000. Mm-hmm. Et devant la période de transition, d'incertitude, d'un pied dans une manière de vivre, un pied dans l'autre, il y avait une certaine impatience chez certains qui auraient voulu précipiter les choses. Et pour eux, penser qu'on allait arrêter de baptiser les enfants, ça leur paraissait un moyen d'accélérer cette transition, d'éviter d'avoir toute cette période d'entre deux, comme de reprendre le pouvoir ou le contrôle, on pourrait dire, dans la mesure où quand on prend en considération la vitesse où les mentalités évoluent, il y a toute une partie qui ne nous appartient pas. Hein? C'est ce qu'il y a dans la vie et dans le cœur des gens, mm-hmm. puis selon leur liberté de conscience aussi. Là. Donc, il y avait une certaine impatience par rapport à ça. Et c'est beaucoup avec cette impatience, je pense, ce désir que les choses avancent plus vite, que des gens ont été au Québec jusqu'à dire « il faudrait qu'on arrête de baptiser les bébés ».
Ouais. Et maintenant, là, où en sont les choses aujourd'hui? Où en est-on actuellement par rapport à ce questionnement au Québec?
Bon, c'est intéressant de voir que c'est le contexte justement qui a changé et qui a continué de changer et que ce n'est pas... Les changements ne viennent pas de la réflexion comme telle. C'est vraiment le contexte qui fait que cette question-là n'a plus l'impact qu'elle pouvait avoir ou n'a plus le même type d'impact qu'elle pouvait avoir.
Est-ce que vous pensez au contexte culturel?
Social, culturel, social... ecclésial, oui. ça joue à tout niveau de ce côté-là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment la réalité dans ce qu'elle a de plus terre à terre qui nous déplace dans notre manière de poser la question.
Et non pas une réflexion théologique.
Exactement.
Sur la bataille.
Exactement.
Je comprends.
Oui. Donc, par exemple, on voit, les études montrent que présentement, il y a une diminution sensible du nombre de baptêmes de petits-enfants. Il y a de plus en plus de bébés qui ne sont pas baptisés. Et puis, c'est ce qui fait que les parents qui se présentent aujourd'hui en paroisse pour le demander sont un petit peu plus conscients, peut-être, qu'ils pouvaient l'être il y a quelques décennies, de la nature vraiment, de la dimension religieuse de leur demande, ne fût-ce que par contraste, hein, dans la mesure où c'est plus tout le monde qui le demande, le baptême. Mm-hmm. Il y a une espèce d'effritement du catholicisme culturel. Donc, ça aussi, ça change, ça déplace la réflexion pastorale. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'avait pas, dans les années 60 ou 70, de forme alternative de célébration. Quand un enfant naissait, on baptisait parce que c'était la manière de fêter la naissance d'un enfant, puis on s'accommodait de ce que ça pouvait vouloir dire.
Ah oui, alors qu'aujourd'hui, on a d'autres façons de célébrer l'arrivée de l'enfant.
Oui, il y a d'autres manières de fêter, il y a des manières non religieuses de fêter qui se répandent, et puis je dirais que ça permet aux gens de choisir, et non plus de se dire tout ou rien. Hein? Il y a des choix. Ensuite, un autre élément qui a changé dans le contexte, c'est que depuis 2001, l'enregistrement civil des enfants est totalement indépendant du baptême, alors que pendant 40 des 50 ans dont on parle aujourd'hui, c'était encore inséparable. Hein? Donc, ça créait une espèce de pression.
Oui, une espèce d'obligation de passer. C'était un passage obligé.
Exactement.
Finalement. Pour s'enregistrer dans la société québécoise.
Alors, ça fait 10 ans maintenant qu'on a un atout de plus pour la liberté de conscience puis pour l'authenticité, pour permettre le choix. Ensuite, d'autres choses qui ont changé beaucoup, c'est dans les 10 dernières années aussi, c'est que la catéchèse n'est plus donnée à l'école. Mm-hmm. Elle est donnée dans la paroisse ou dans la famille. Donc, ça aussi, ça change complètement le contexte. Ça déplace totalement la manière de penser la pastorale. Un enfant non baptisé aujourd'hui ne subit plus de marginalisation sociale dans la mesure où ils sont plus nombreux. Et puis, on voit aussi un homme plus grand. Ça devient quelque chose qu'on sait, qu'on connaît, qu'on peut être baptisé plus tard dans l'enfance ou à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est plus exceptionnel. On n'a plus besoin d'un tel effort d'imagination pour penser que c'est possible. Mmh. On en voit, là. Hein? Mmh. On en voit chaque année un peu partout au Québec. Et aussi, je dirais qu'il y a eu une progression dans notre réflexion, c'est-à-dire on a plus d'expérience, plus d'assurance, peut-être plus de sagesse, en tout cas je le souhaite. Je pense qu'on est moins porté à réclamer des solutions radicales, on fait plus confiance au temps et au discernement qui va s'étaler dans le temps. Alors aujourd'hui, le baptême des bébés, bon, ça nous paraît peut-être pas l'idéal, mais ça nous paraît plus le cul-de-sac par rapport auquel il faut lever les bras et puis réclamer que ça arrête. On considère que ça a plus de chances d'être signifiant et puis on croit moins qu'interdire va nécessairement pousser les gens dans une meilleure direction. Je dirais qu'on va plus avoir confiance, on va plus valoriser la carotte que le bâton dans la pastorale actuelle. Oui. Donc, c'est tous ces éléments de contexte qui ont amené vraiment un déplacement par rapport à la question.
Vous avez choisi, Sophie Tremblay, de nous faire entendre une chanson de Robert Lebel et qui parle du baptême. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, c'est une très belle chanson qui s'appelle « Petit trésor » et qu'on trouve sur le disque « Vêtu de lumière » où Robert Lebel chante avec Manique. Et c'est une chanson qui a été écrite pour un baptême. Et je trouve qu'elle nous fait découvrir à quel point chaque enfant baptisé, un peu comme Jésus, reçoit à l'intérieur de la célébration une déclaration d'amour de Dieu.
Petit trésor, nous n'avons en partage ni coffret d'or, ni château fort. Mais un grand héritage, c'est celui de l'amour que nous avons reçu. Oui, celui d'un amour et du nom de Jésus. Petit trésor, tu es son bien-aimé. Petit trésor, tu es son bien-aimé.
Voilà pourtant que bien avant, tu es à son image. En tes yeux quelque part scintille l'infini. Il y a dans ton regard quelque chose de lui. es son bien-aimé. Petit enfant, tu es son bien-aimé.
Petit ami, tu ne saurais comprendre qu'on ait choisi d'offrir ta vie aujourd'hui sans attendre. Un jour tu grandiras et tu sauras choisir. Alors tu reviendras toi-même lui offrir. Petit ami, tu es son bien-aimé. Petit ami, tu es son bien-aimé.
Petit soleil, tu es si frêle encore, mais notre ciel, dès ton réveil, s'allume à ton aurore. Tu as changé le cours de notre quotidien, mais tu donnes à des lendemains. Petit soleil, tu es son bien-aimé. Petit soleil, tu es son bien-aimé. Petit trésor, coffre d'or, ni château fort, mais riche de confiance.
Avance, ne crains pas, tends la main à tous ceux qui cheminent avec toi vers la maison de Dieu. Petit trésor, tu es son bien-aimé. Petit trésor, tu es son bien-aimé.
Nous reprenons cette entrevue avec Sophie Tremblay, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal, qui nous parle du baptême. Cette fois-ci, Sophie, nous parlerons donc du baptême des adultes. Depuis le Concile Vatican II, il existe, me disiez-vous, deux rituels du baptême. Le rituel du baptême des petits-enfants et le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Nous venons de parler du baptême des petits-enfants. Parlons maintenant de celui des adultes. En 1960, c'était extrêmement rare. En 2011, on en voit, me disiez-vous, de plus en plus. Comment expliquez-vous ce phénomène-là?
Alors, il y a 30, 40 ou 50 ans, les gens qui demandaient le baptême au Québec, généralement, étaient nés dans d'autres parties du monde. Et le catéchuménat, comme démarche approfondie vers le baptême, il existait à Montréal, mais très, très peu dans les autres régions, pour ne pas dire totalement inexistant dans la plus grande partie des régions du Québec. Et le catéchuménat de Montréal regroupait essentiellement des immigrants et des immigrantes. Mais à chaque décennie qui nous sépare des années 60, entre 1960 et aujourd'hui, on a vu augmenter le nombre de personnes qui arrivaient de l'extérieur et aussi on voit une augmentation du nombre d'enfants non baptisés. Donc là, vous avez deux tendances sociales qui peuvent être observées. Et aussi, parmi les personnes qui sont baptisées en bas âge, un nombre croissant n'aura reçu aucune catéchèse ou n'aura pas reçu la confirmation et ou n'aura jamais participé à l'Eucharistie. Donc, seulement une partie des étapes de l'initiation chrétienne. Donc là, ça élargit le nombre de personnes qui peuvent être concernées par une démarche à l'âge adulte. Mm-hmm. L'autre chose aussi, c'est que avec la sécularisation de la société puis le changement de la place qu'occupait l'Église, toutes sortes de situations liées à la liberté de conscience puis au rythme de cheminement. Autrefois, la question se posait pas parce que c'était impossible d'imaginer qu'on soit pas baptisé. Et maintenant, c'est devenu quelque chose qui est admis et dans l'Église et dans la société. Et c'est pas un phénomène qui est seulement québécois dans la mesure où on le voit dans un peu tous les autres pays occidentaux, mais dans certains comme la France, la laïcité s'est installée bien avant. Et puis là aussi, il y a eu de l'immigration. Alors ça a commencé plus tôt dans leur histoire.
Oui.
Ouais, beaucoup plus tôt. Ils ont beaucoup d'expérience dans le catéchuménat. Ensuite, un autre facteur qui explique la croissance, la montée du catéchuménat, c'est que la Constitution sur la liturgie de Vatican II, dont on parlait dans la première partie de l'entrevue, demandait explicitement qu'on restaure le catéchuménat baptismal partout dans le monde, partout sur la planète où il y avait des catholiques. Donc, c'est une tendance vraiment internationale et au Québec, on s'inscrit vraiment dans cette mouvance-là.
Oui. Et dites-moi, en quoi le baptême des adultes est-il différent? J'imagine qu'il l'est de celui des enfants.
Il y a plusieurs différences qui sont vraiment significatives, donc je vous en fais remarquer quelques-unes. Bon, la première, elle est évidente, c'est que l'adulte demande le baptême pour lui-même. Il est conscient, il ne peut que s'en souvenir, à moins d'un choc et d'une amnésie, ce qui est vraiment rarissime. Alors que les bébés sont baptisés à la demande de leurs parents, ils s'en souviennent généralement pas. Et ils devront éventuellement choisir eux-mêmes d'assumer ou de rejeter un baptême qu'ils ont reçu sans le demander.
Oui. Oui. Mais c'est pas un peu ce qui correspondrait, me semble-t-il, à l'éducation qu'on donne à nos enfants. On ne leur demande pas, finalement, ce dont ils ont besoin, et on leur inculque des valeurs. Et puis, un petit peu plus tard, ils choisissent, ils refont des choix que les parents ont fait pour eux.
Tout à fait. Alors. Dans le contexte du Québec moderne ou de toute société moderne, effectivement, il y a de la place pour que les jeunes puissent refaire ce choix et on accepte que ce choix puisse être, en tout cas théoriquement du moins, que ce choix puisse être différent de celui que les parents ont voulu. Oui. Dans une société traditionnelle comme celle du Québec d'autrefois, même encore en 1960, cet espace de liberté-là, il était difficile à conquérir. Si on s'inscrivait pas dans la foulée de ce que les parents ont voulu, à ce moment-là, on avait d'énormes problèmes à pouvoir continuer sa vie et à trouver sa place. Oui. Aujourd'hui, avec cette place donnée à la liberté de conscience, puis de considérer les personnes comme des sujets, comme des individus, effectivement, le fait d'avoir à refaire le choix, il touche toutes sortes d'autres domaines de la vie et pas seulement le baptême.
Oui. Donc, la différence entre le baptême des adultes, la première en tout cas, et le baptême des bébés, c'est que l'adulte fait son choix consciemment.
Pour lui-même. Oui, il y a d'autres éléments qui font la différence. D'abord, la préparation au baptême des bébés, la pastorale du baptême, elle concerne les parents et généralement, elle est assez courte, elle est assez ponctuelle, circonscrite dans le temps. Et on va miser sur ce qui va suivre à mesure que l'enfant va grandir à travers sa croissance. On croit qu'il recevra la formation chrétienne de base à travers la catéchèse, à travers des sacrements comme la première communion et la confirmation, qu'il vivra plus tard, et à l'âge scolaire, voire même à l'adolescence. Hein? Donc, on se dit, le baptême, c'est le départ, le reste va survenir après. Tandis qu'avec l'initiation chrétienne des adultes, mais c'est la période qui précède le baptême qui permet d'avoir cette formation chrétienne de base. Elle est quand même étalée aussi sur une certaine période de temps. Hein? Pour ça, parfois, que certaines personnes sont étonnées de dire, ben, vous baptisez les bébés après deux rencontres. Pourquoi pour un adulte, vous demandez 3 ans?
Oui.
Parce que la moyenne, c'est plutôt 3 ans.
C'est 3 ans.
Pour le catéchuménat, c'est 3 ans, la moyenne.
Okay. Est-ce que c'est une raison qui va amener les gens à refuser le baptême ou à ne pas s'engager dans ce long processus, justement parce que c'est trop long?
Ça suscite des questions. Probablement pour certaines personnes, ça pose des problèmes. Mais par ailleurs, après coup, les gens qui ont terminé le processus trouvent que ça avait du bon sens.
Oui.
Que ça leur laisse le temps de s'approprier cette manière de croire et de voir la vie qui est différente. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est différent des petits-enfants. Les petits-enfants, bon, on les forme à travers une vision chrétienne de la vie, du monde, de la foi et tout. Mais pour les adultes, ils ont tout un bagage qui a précédé le catéchuménat.
Oui.
Donc, ils ont un bagage d'expérience et puis il va y avoir comme un temps de passage, de conversion. Et par ailleurs, quand ils vont recevoir le baptême, habituellement, la confirmation puis la première Eucharistie vont être très, très rapprochées dans le temps.
Oui. Le catéchuménat et le baptême des adultes sont, si je comprends bien, en pleine croissance.
Oui.
Alors, quels sont les effets, les fruits de cette nouveauté, je dirais, pour notre Église aujourd'hui?
La première chose que j'aurais envie de dire, c'est que, bon, dans une société où l'Église et la foi chrétienne n'ont pas toujours bonne presse, c'est vivifiant de rencontrer des personnes qui en font le choix conscient. Mmh. ces personnes-là nous manifestent que le christianisme peut susciter autre chose que du dégoût ou du rejet, qui peut être désirable et désiré. Puis ça, je pense qu'il y a quelque chose de réconfortant, de joyeux. Ça donne de l'élan, il me semble. C'est un antidote contre l'impression que certaines personnes peuvent avoir d'être les derniers chrétiens, hein, oui, qu'il n'y aura pas de relève. Exactement. Et que personne veut prendre la suite.
Oui,
là.
Oui, alors ça amène un vent frais dans cette Église.
Absolument. Uh-huh. Ensuite, ça nous permet de voir que tout ne se joue pas dans l'enfance et que la foi n'est peut-être pas d'abord une affaire d'enfant, même pour ceux qui sont baptisés enfants. Et ça, c'est intéressant de pouvoir se le dire. Quand on pense aux grands-parents, par exemple, qui peuvent se désoler que leurs petits-enfants ne reçoivent pas le baptême, ne reçoivent pas la catéchèse. Mais dans le fond, de voir des catéchumènes adultes, des gens qui seront baptisés à l'âge adulte, ça nous dit que tout ne se termine pas avec l'enfance. Que ça veut pas dire qu'il y a rien qui sera possible pour les enfants qui seront pas baptisés en bas âge. Bien au contraire. Le baptême des enfants permet certaines formes de cheminement. Mais en même temps, il y en a d'autres qui peuvent pas être vécues quand on est des baptisés enfants. Mm-hmm. Puis au contraire, il y a d'autres formes de cheminement qui vont être ouvertes, qui vont être rendues possibles et qui ont une beauté et une grande richesse. Et c'est cette variété-là qui nous fait découvrir tous les chemins qui peuvent mener à Dieu. Il n'y en a pas un seul, il y en a une multitude.
Donc, ça peut être rassurant là pour les grands-papas, les grands-mamans qui se désolent devant cette situation, en fait.
Tout à fait. Mm-hmm. Ensuite, on découvre que le modèle catéchuménal est contagieux. On pourrait dire, il devient une inspiration mm-hmm. dans l'initiation chrétienne des enfants, et c'est une source d'inspiration dont l'influence s'élargit de plus en plus. Ça, c'est vraiment une tendance très, très actuelle.
Mais alors, pourquoi?
Parce que le catéchuménat a à la fois des racines dans l'Église ancienne, mais en même temps, il est tellement bien ajusté aux conditions actuelles de la vie et de l'émergence de la foi. Il nous transmet une intelligence de la foi, une sagesse pastorale, une confiance en l'Esprit. Et ça nous inspire pour toutes les autres pastorales. Nous avons beaucoup à apprendre du catéchuménat, puis c'est aussi un cadre qui va favoriser la créativité avec des bonnes balises. Hein, il y a comme un bon équilibre entre un espace de liberté puis des balises qui sont claires. Je pense qu'on est loin d'avoir fini, on commence à peine à tirer toutes les richesses du modèle catéchuménal.
Nous poursuivons donc cette entrevue sur le baptême avec Mme Sophie Tremblay de l'Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. La célébration et la pastorale du baptême, on l'a vu là, depuis le début de cette émission, ont beaucoup évolué entre 1960 et 2011. Nous avons parlé de plusieurs aspects de ces changements, mais j'aimerais vous questionner au sujet des parrains, donc, et des marraines. Choisir un parrain, une marraine pour l'enfant baptisé, c'est une tradition, je pense, qui demeure présente au Québec, mais j'imagine qu'à ce sujet aussi, les choses ont bien changé en 50 ans. Alors, pourriez-vous nous décrire ces changements-là?
Donc, parlons d'abord de 1960,
oui.
Hein, comme uh-huh. au début. Donc, être parrain et marraine en 1960, c'est être dans les honneurs. Mm-hmm. Hein? On les choisit en priorité habituellement parmi les membres de la famille. Mais comme les familles sont nombreuses puis que les enfants étaient tous baptisés, on en venait facilement à choisir des personnes qui n'étaient pas très significatives, mais qui étaient dans l'entourage immédiat. Et puis aussi, les gens pouvaient avoir des tas de filleuls et filleules masculins et féminins. Là. Mm-hmm. Puis souvent, l'honneur ne durait qu'une journée. Quand le Québec était catholique mur à mur, étrangement, la dimension religieuse du rôle des parrains et marraines dans la vie de leurs filleuls prenait peu de relief, hein, parce que c'était toute la société qui jouait une espèce de rôle de parrainage informel,
oui.
On pourrait dire. Mm-hmm. Alors, c'était vraiment la dimension sociale qui, après coup, est restée un petit peu ce qui nous a été conservé de ces traditions-là.
Oui, parce qu'en fait, l'éducation de la foi se faisait beaucoup plus à l'école.
Exactement.
Que dans la famille.
Que dans
de
la
toute
famille
façon.
Ou dans la famille avec les parents, mm-hmm. mais pas forcément avec les parrains
avec
et
les
marraines.
Parrains.
Ouais.
Mm-hmm.
Ensuite, on disait autrefois que le choix des parrains et marraines pouvait avoir une influence si jamais les parents décédaient. Mais c'était plus une coutume, c'était pas une loi. Mais cette idée est quand même demeurée présente. On la retrouve encore dans les mentalités. Oui. Hein? Si on mourait, à qui confierions-nous nos enfants? Donc, c'est ces personnes-là qu'on va choisir comme parrain marraine.
Oui, puis est-ce qu'on choisit pas les parrains marraines en fonction un peu de ça?
Oui.
À qui je voudrais laisser mes enfants
tout
si toutefois je mourrais?
Tout à fait.
Alors, il n'y a pas de lien avec
il n'y a pas de lien avec la foi, tout à fait.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment la dimension sociale qui est prédominante. Mm-hmm, mm-hmm. Et puis, même si beaucoup de choses ont changé, et dans le rituel, et dans la société, c'est un des points sur lequel les traditions sont le plus lentes à évoluer, à changer.
Vous parlez du choix des parrains.
Du choix des parrains et marraines. On est extrêmement traditionnel, en tout cas du moins jusqu'aux années 90, mm-hmm. on pourrait dire. Puis ce qui reste des coutumes et de la tradition, donc c'est ce que vous disiez, bon, à qui je confierais mes enfants. Et puis aussi, on s'attend à ce que le parrain ou la marraine ait une relation privilégiée avec l'enfant, qui donne des cadeaux. Mm-hmm. Hein? Donc ça fait un peu partie de ce qui a été conservé de la coutume. Et puis, même si le rituel du baptême a beaucoup changé le rôle des parrains et marraines à partir de la fin des années 60... Bon, ça nous a amené à vouloir retrouver le sens religieux du parrainage, mais par ailleurs, les coutumes ont la vie dure.
Si les mentalités évoluent lentement, les familles, elles, sont bien différentes aujourd'hui, hein, d'il y a 50 ans. Est-ce perceptible dans le choix des parrains et marraines de baptême aujourd'hui?
Bon, je dirais que bon, la tradition est encore fort présente, puis les parents semblent se préoccuper avant tout de la dimension sociale du choix des parrains et marraines. Mm-hmm. On les choisit encore majoritairement dans la famille immédiate ou élargie, et aussi, on pourrait dire que les parents évitent le plus possible les situations de conflit mm-hmm. autour du choix du parrain ou de la marraine, dans la mesure où s'il y a un conflit, ça va être plus qu'une journée qui va durer, mais on va avoir à vivre avec après. Donc, on veut que ça se fasse dans la paix. Par ailleurs, les familles sont plus petites. Les réseaux sociaux sont plus fragiles. Et aussi, il y a l'éloignement géographique qui s'en mêle. Hein. On a des membres de nos familles qui peuvent être aux quatre coins du Québec et même du monde. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui influence et qu'on n'avait pas à prendre ça en considération dans les années 60. C'était rare. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que les personnes qui peuvent être éligibles au rôle de parrain ou de marraine, dans beaucoup de cas, sont plus nombreuses à l'intérieur du réseau immédiat. Ensuite, on choisissait les parrains et marraines en couple. Hein? Puis même, traditionnellement, quand on était rendu à l'oncle ou à la tante,
oui.
À qui c'était le tour, mais qu'il ou elle était encore célibataire,
oui.
Ben on allait coupler avec le grand-père ou avec la grand-mère ou avec de cette façon-là. Mais il fallait que ce soit deux, puis à l'intérieur de la famille. Donc, encore aujourd'hui, les gens répugnent à choisir soit juste un parrain, soit juste une marraine. Ils font spontanément penser à deux personnes.
Mm-hmm.
Puis pourtant, c'est pas du tout quelque chose qui est exigé. Hein?
Non.
Puis c'était pas le cas autrefois non plus. C'était pas nécessaire.
Ça faisait pas partie du droit canonique.
Ben, c'est-à-dire, le droit canonique dit que c'est souhaitable qu'il y ait une figure masculine, une figure féminine. Mais c'est même pas obligatoire d'avoir un parrain ou une marraine. Hein?
Ah non.
Non.
Ah.
C'est souhaitable, mais c'est pas obligatoire.
Ah bon.
Et puis le droit canon de 1960 n'en faisait pas une obligation non plus. C'était souhaité, mais le baptême pouvait tout à fait avoir lieu sans qu'on ait de parrain ou de marraine. Bon, ce qu'on voit apparaître à partir des années 90 et qui est encore plus flagrant aujourd'hui, donc dans les 20 dernières années, c'est que on a des situations de plus en plus nombreuses où le choix des parents ne concorde pas avec certains normes du droit canonique. Par exemple, hein, là, il est question actuellement dans le droit canonique de 16 ans. Mais il y a des parents pour qui le choix d'un parrain ou d'une marraine dans leur entourage, ça irait chercher un adolescent qui est plus jeune que ça.
Oui, oui,
hein,
oui.
Qui serait une bonne personne à leurs yeux.
Oui.
Il y a aussi, dans les personnes qui sont choisies par les parents, des gens qui sont pas confirmés, qui ont pas eu la confirmation pour les raisons qu'on évoquait plus tôt, ou encore qui sont pas catholiques. Hein. Mais c'est ce que les parents souhaitent. Ou bien ils vont arriver à la paroisse en disant, nous, on voudrait deux marraines, ou bien on voudrait deux parrains. Donc, deux personnes du même sexe. Pas forcément en couple, là. Mais deux personnes du même sexe. Donc, ça amène des négociations et parfois, c'est vraiment ardu.
et même des tensions.
Et même des tensions, tout à fait.
Ah, oui. Mais est-ce qu'on rencontre des prêtres de paroisse qui vont accepter des parrains non confirmés, non baptisés, des parrains, marraines en bas de 16 ans? Est-ce que, dans votre pratique, est-ce que vous voyez...
Mais je dirais, bon, si j'en viens au droit canon,
oui,
le droit canon dit que si on a des bonnes raisons de laisser aller la règle, de faire exception Le jugement pastoral peut amener à faire exception. Ah bon. Mais par ailleurs, ça, c'est chaque diocèse, chaque région pastorale qui a à prendre position par rapport à ça. Alors, vous voyez toutes sortes de choses. Il y a des endroits où on est plus rigide, des endroits où on l'est moins. C'est pas forcément une bonne chose d'être trop rigide ou de laisser passer n'importe quoi. L'équilibre est parfois difficile à trouver.
Oui, oui. Ouais. Alors, on a toutes les figures de cas.
On a toutes les figures possibles, oui. Okay. Ensuite, on a aussi des situations familiales qui sont variées, qu'on ne voyait pas autrefois. Hein? Des familles qui sont éclatées,
oui.
Des parents qui sont non mariés, hein? On n'aurait pas imaginé ça autrefois, des familles recomposées, des familles monoparentales. Donc, parfois, ça va compliquer le choix des parents et marraines, puis la participation à la célébration aussi, hein? Des gens qui ne veulent pas être assis côte à côte, là. Parfois difficile aussi de trouver une personne croyante, hein? Une personne qui serait un témoin de la foi signifiant dans l'entourage des parents. Alors, et un autre phénomène qu'on voit apparaître, puis qui est intéressant, et qui est du côté des pratiques alternatives, c'est que moi, j'ai vu des gens qui choisissent de célébrer de manière non religieuse la naissance de leur enfant, mais ils vont quand même décider que cet enfant aura un parrain et une marraine.
Exactement.
Pour la relation privilégiée, pour les cadeaux... donc c'est vraiment la dimension sociale qui est conservée puis qui a un beau sens humain. Mais ça, on n'aurait pas imaginé ça autrefois non plus.
Non.
Donc ça, c'est une nouvelle tendance qui est en croissance.
Il sera donc intéressant d'observer dans les années à venir comment les mentalités et les coutumes continueront d'évoluer autour du baptême des enfants et aussi à tous les âges de la vie.
Ah, tout à fait. Sur ce terrain-là, ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions sociales puis les évolutions religieuses qui se combinent, qui tirent dans un sens ou qui tirent dans l'autre, mais ça en fait un bon révélateur de la situation de la foi chrétienne au Québec.
Notre entrevue, donc, Sophie Tremblay, s'achève. Donc, j'aimerais savoir quelle est, à vos yeux, la prise de conscience la plus importante des 50 dernières années au sujet du sens du baptême.
Autrefois, le baptême allait tellement de soi qu'on ne réalisait pas son impact dans une vie. Mais quand tout le monde était baptisé dans la société québécoise ou dans toute autre société comparable, le baptême incorpore indifféremment dans la société et dans l'Église. Mais la grande découverte, c'est que quand on retourne aux sources des premiers siècles chrétiens, on découvre une richesse incroyable du sens du baptême, comme plongée dans la mort et la résurrection du Christ, comme profession publique de la foi, comme incorporation à l'Église, comme peuple de Dieu, comme corps du Christ, temple de l'Esprit, comme moment crucial aussi dans le processus de conversion. Alors, tout ça est d'une beauté, d'une richesse incroyable. C'est pas seulement une célébration ponctuelle à accomplir ou une obligation à laquelle il faudrait satisfaire. C'est vraiment la fondation de tout un mode de vie. C'est une vie baptismale qui commence au baptême, mais souvent même qui a commencé déjà à s'installer avant. Et c'est une vie au rythme, à la respiration du mystère de Pâques. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour pouvoir vraiment vivre toute la richesse de son baptême.
Belle manière, me semble-t-il, de se quitter, Sophie Tremblay. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation à venir nous entretenir d'une réalité fort importante dans la vie d'un croyant, puisque le baptême est la fondation, comme vous le dites si bien, de tout un mode de vie. Vous êtes tellement enthousiaste que vous nous avez donné le goût de continuer la réflexion. Alors, merci beaucoup.
Merci et au plaisir.
Je remercie bien chaleureusement Sophie Tremblay, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Un merci tout particulier à Justine Chevary-Cossette à la technique. Je remercie Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions « Croire d'hier à demain » réalisée dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. C'est Christine Cossette au microphone qui vous souhaite donc une très bonne semaine. Au revoir.